Inadéquate, le présent l'âme, il me faut des idées féministes inclusives, supernormes, une forme nouvelle, mais la vie me défonce la tête.
Inadéquate, le présent l'âme, il me faut des idées féministes inclusives, supernormes, une forme nouvelle, mais la vie me défonce la tête.
Inadéquate, le présent l'âme, il me faut des idées féministes inclusives, supernormes.
Je vais m'en oublier bien, mais vite fait, à la lueur de main, de shape-shift, ego break, toi tu connais la clé.
Je vais m'en
oublier bien, mais vite fait, à la lueur de main, de shape-shift, ego break, toi tu connais la clé.
Ego. Ego.
Je mets mon double vie, mais vite fait, à la lueur de... Sans le Wi-Fi, on me coupe de lieu où j'existe, me coince dans un univers de corps, de viande. Pour me parler avec les doigts, j'ai ma commune, ne pas parler. Je veux rouvrir à deux pieds au-dessus du monde, être invisible comme un enfant à la table des adultes, discrète, à qui on ne s'adresse pas, le corps,
de viande.
Sans le Wi-Fi, on me coupe de lieu où j'existe, me coince dans un univers de corps, de corps,
de viande,
de corps,
de viande.
Qu'elle ouvre ce cycle de 3 ans avec nous. Donc, en fait, si je peux me permettre, le Slow Tech, en fait, c'est une approche qu'on essaie de développer puis de peaufiner au Studio X6, donc à travers laquelle on va aborder les thématiques de l'environnement, les interactions et les temporalités. Donc, on se donne 3 ans pour explorer ces axes-là de réflexion. Et puis, Marie-André, la première artiste qu'on reçoit dans ce cadre, on est vraiment enchantée de faire sa présence. Donc, elle a développé ici le volet audio de son travail installatif, l'obsolescence des mots. Et puis, on va assister ce soir à une discussion avec l'écrivaine Elisabeth Bonnarbrook, qu'on reçoit ce soir pour cette discussion. Donc, on est enchantés aussi de la rencontrer et puis de l'accueillir au Studio X6. Si je peux me permettre, il y a des places ici assises au sol, si jamais certains d'entre vous veulent s'asseoir, là, n'hésitez pas. Donc, il y a aussi quelques tapis disponibles.
Les artistes ne mordent pas.
Ouais. L'idée, c'était qu'on soit un peu circulaire autour du truc. Fait que...
Donc, l'obsolescence des mots de Marie-André Pellerin prend la science-fiction comme point de départ pour questionner notre rapport au langage. Donc, il y a déjà une installation sonore à partir des trucs de clavier, donc, tel que vous l'avez ici. Donc, Marie-André va s'entretenir avec Elisabeth. Je vais commencer par me mentionner quelques notes biographiques. Et puis aussi, je souligne la présence de Maud Veilleux, qui est ici, qui est poète. Puis dont les textes, certains textes de son dernier recueil,
Le titre?
Oui, une sorte de lumière spéciale. Donc, ont été intégrés à l'œuvre de Marie-André. Donc, elle est ici ce soir. Donc, alors, Marie-André Pellerin travaille principalement l'installation aux vidéos, la sculpture et la lecture performance. Elle s'intéresse à la rhétorique et au pouvoir des mots. Ses recherches actuelles pose un regard post-humaniste sur le langage et aborde des thèmes tels que la fluidité des mots ainsi que l'obsolescence du langage tel qu'on le connaît. Donc, elle vient de Montréal. Elle a terminé en 2015 une maîtrise aux Pays-Bas, puis elle poursuit aujourd'hui un doctorat en recherche et création à Linz, en Autriche. Alors, Elisabeth von Arbour, que vous avez juste à côté de ma rentrée, est née à la vie en 1947 en France et à la science-fiction en 1964. Elle a enseigné la littérature française et la création littéraire dans plusieurs universités québécoises. Et puis, elle est écrivaine à plein temps, malgré un PhD en création littéraire à l'Université Laval en 1987. Depuis 1990, elle a été chanteuse, compositrice, interprète, traductrice, organisatrice de congrès et d'ateliers d'écriture, directrice littéraire, entre autres du magazine Solaris, essayiste et chroniqueuse. Donc, elle a néanmoins réussi à faire publier bientôt une quarantaine de livres, dont 17 romans, plusieurs traduits en anglais. Donc, il y a certains titres. Je vous invite d'ailleurs à faire une recherche pour ceux qui ne la connaîtraient pas sur Madame von Arbour, mais vous allez se documenter sur différents sites web, dont Donc, elle a fait, donc, comme je le disais, plusieurs romans traduits en anglais, 4 romans pour enfants ou pour adultes, plus de 30, elle a reçu plus de 30 prix en France, au Canada, au Québec, aux États-Unis, dont 4 pour l'ensemble de son œuvre. Donc, le prix Cyrano en France en 2007, le prix Hommage visionnaire au Québec en 2009, et le prix le Canadian Science Fiction Hall of Fame au Canada en 2017, et puis le prix Extraordinaire en France en 2018.
C'est le meilleur!
Puis la série Reine de mémoire, 2005 à 2007, contient 5 volumes, a gagné 4 prix au Québec et au Canada. Donc le prix le premier temps qu'elle a reçu, c'est pour Les pierres et les roses, une trilogie publiée en 2018. Le prix Boréal également en 2019 qui a été remis.
Puis, cette année.
À part l'écriture, elle aime les chats, l'hiver, la pâtisserie et les mauvais jeux de mots. Oui. Bon, je vais me permettre aussi une biographie sur Maud Veilleux, qui est originaire de la Beauce. Elle est bachelière en études littéraires de l'Université Laval, puis elle poursuit actuellement une maîtrise en littérature en langue française à l'Université de Montréal sous la direction de Claire Legendre. C'est intéressée par l'écriture narrative, Maud Veilleux aborde dans ses œuvres les enjeux des médias sociaux, de l'écriture de soi et de l'identité narrative. L'écriture de Maud Veilleux, a été décrite comme impudique et troublante, décomplexée, incarnée. L'obsession de la vérité dans la fiction traverse son écriture, puis son œuvre compte 2 romans, Le vertige des insectes et Prague, ainsi que 3 recueils de poésie, Les choses de l'amour amable, en 2013, Lascaux les murennes, en 2016, puis Une sorte de lumière spéciale, en 2019, dont on entend quelques extraits ce soir. Puis elle a également signé des fanzines, dont Les filles de la Beauce et Automne conflit. Donc, bonne soirée pour Studio X6. Donc, la discussion va être interrompue par un petit intermède performatif, puis ensuite va se poursuivre, puis à la toute fin, vous serez invité à prendre part à une période de questions. N'hésitez pas si jamais des interventions.
Merci.
Merci.
Je vais aussi mentionner que La Rose qui est là ce soir, qui a aussi contribué avec sa voix à certaines pièces qui vont être présentées plus tard. Peut-être on peut commencer juste par dire que moi je fais un doctorat en pratique des arts, puis je m'intéresse à la science-fiction féministe, puis c'est dans ce contexte-là que j'en suis venue à contacter Elisabeth à distance. Fait que dans le fond, j'ai écrit un email pour lui demander si elle avait le temps de skyper, puis on a commencé...
Et nous skypâmes.
Voilà. puis c'est ça, moi je m'intéressais aux femmes qui écrivent de la science-fiction parce que c'est quand même pas le genre le plus présent. On a beaucoup discuté, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'écrire de la science-fiction dans le corps d'une femme, puis d'avoir de questionner aussi les identités. Puis, je ne sais pas si vous voulez commencer, par exemple, par expliquer un peu qu'est-ce que c'est pour vous de la science-fiction par rapport à la science-fiction féministe, peut-être.
La science-fiction, moi, ce qui m'attire dans la science-fiction, je ne veux pas dire ce que c'est que la science-fiction, je veux dire ce qui m'intéresse, moi, ma science-fiction. C'est le questionnement, l'idée de la différence. Si c'était autrement, comment ce serait ? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant comme question, parce qu'il ne s'agit pas tellement de dire voilà ce qui serait le meilleur ou voilà ce qui est le pire, c'est d'essayer d'imaginer ce qui est différent. Et c'est beaucoup plus difficile d'imaginer la différence que d'imaginer le meilleur ou le pire. Bon. D'autre part, l'autre grand moteur de la science-fiction que j'aime et que j'essaie de pratiquer, c'est la recherche de l'autre, ce qui va de pair avec l'idée de la différence. Et c'est quelque chose qui m'a frappé dans la science-fiction dès que je l'ai découverte. C'était les extraterrestres, c'était les mutants, c'était les robots, c'était les androïdes, les artefacts plus ou moins conscients créés par les humains. Tout ça, c'était l'autre. Et comment est-ce qu'on s'en accommode ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le rejette ? Est-ce qu'on le craint ? Est-ce qu'on le hait ? Est-ce qu'on l'assimile, ce qui n'est pas tellement mieux ? Ou bien est-ce qu'on essaie vraiment de questionner sa différence ? Et quand je dis sa différence, ça marche dans les deux sens, parce que c'est ma différence par rapport à l'autre et la différence de l'autre par rapport à moi. Et c'est quelque chose de très difficile, la rencontre avec l'autre, parce que justement nous sommes pognés dans le « ok, finalement, oui, on se ressemble, on est tous pareils sous la peau, blablabla bla, », bla. Ou bien il y a « non, non, il y a des différences totalement irréductibles ». Or, ça se situe dans une espèce de zone grise, en réalité, qui circule, où ça circule, où la différence et la ressemblance n'arrêtent pas de circuler. Et ça, je l'ai trouvé dans les meilleurs textes de science-fiction, où on a l'impression, par exemple, dans Le Guin, Ursula Le Guin, dont...
L'autre.
Enfin, dans La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, on a justement cette présentation de gens qui nous paraissent très humains, puis tout d'un coup, on bute dans quelque chose qui est totalement différent. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Là, en l'occurrence, il s'agit de questions de genre. Mm-hmm. Et de sexe.
Peut-être on peut donner un exemple pour les gens qui ne sont pas familiers, par exemple, avec son roman, juste parce que dans celui-là dont elle parle, le genre n'est pas aussi défini. Il n'y a pas un homme et une femme. C'est une personne sans genre, sauf quand ils vont se reproduire, par exemple. Donc, c'est une conception complètement différente. Même à un moment donné, dans le livre, ils disent... Ben, je sais, moi, j'ai tendance à toujours lui dire il, alors que finalement...
C'est ça, c'est l'intérêt du bouquin, et même... Enfin, si vous le lisez en anglais, ça ne vous fera pas tout à fait le même effet qu'en français, parce qu'en français, le traducteur s'est retrouvé poigné avec les genres. Et ça fait des horreurs dans le bouquin. Le Guin, elle-même, s'est prise à son propre jeu, d'une certaine façon. On le lui a reproché, elle est revenue dessus et elle a dit plus tard qu'elle n'aurait pas, que maintenant elle n'écrirait plus comme elle a écrit ce truc-là, mais elle était jeune et folle à ce moment-là. L'intérêt dans ce texte-là, c'est que tout le monde peut être un père, une mère ou avoir des enfants. Donc vous pouvez être père à un moment donné et puis à la reproduction suivante, vous serez une mère. Donc ils ont l'expérience humaine complète. Et par ailleurs, l'intérêt de ce bouquin-là, c'est qu'il est présenté de notre point de vue à nous. Parce que le narrateur, enfin pas le narrateur, mais le personnage point de vue, est un humain, bien sexué, et un homme, qui est tout le temps pogné dans « Ok, cette personne est dans une position de pouvoir, j'appelle ça il. » Et il sait qu'il ne peut pas et qu'il ne devrait pas, mais il est pogné dedans, et nous sommes pognés dedans avec. Et pour toute une génération d'écrivaines dont je fais partie, et tout ceci n'est pas très jeune, puisque le bouquin date de... 68, 69, enfin par là, vous n'étiez pas nés. Pour toute une génération, ça a été un choc. On avait 20 ans, 22 ans, on commençait à écrire, et on était présenté avec ce qui nous achalait dans la vie que nous commencions à mener, c'était déjà là, et on avait cette question-là, c'est quoi être humain ? C'est quoi être un homme ? C'est quoi être une femme ? Et on n'a jamais arrêté de discuter avec ce bouquin-là pendant...
Je peux donner juste un autre exemple.
Oui.
Par exemple, je pense que c'est dans un livre d'Octavia Butler où c'est un extraterrestre qui explique à un autre extraterrestre qui ressemble à un humain, comment il doit agir devant un humain pour avoir l'air humain, parce qu'il a l'air humain, mais il regarde pas avec ses yeux, je pense qu'il sent, je me souviens pas exactement.
La performance,
c'est pas... Puis justement, il dit, il faut que tu regardes les humains dans les yeux, sinon ils vont trouver ça louche. Puis c'est des choses comme ça. Ça, c'est juste un petit exemple, mais tu sais, il y a des choses beaucoup plus fondamentales aussi qu'on apprend ou qui se dévoile, je trouve, dans les lectures comme ça.
Oui, et c'est ça. C'est pour ça, la science-fiction est extrêmement précieuse. Pour la réflexion féministe, elle a été extrêmement précieuse. Je dirais bien, franchement, je n'ai pas découvert le féminisme, moi, à travers les textes canoniques de l'époque, mais à travers mon expérience de vie et à travers la science-fiction. Parce que, justement, les femmes arrivaient à ce moment-là et elles posaient ces questions-là. C'est bon, vous êtes bien gentil, vous allez explorer l'espace, mais comment vous élevez les enfants dans l'espace ? Personne n'y avait jamais pensé. Ce genre de questions idiotes, enfin, idiotes pour les autres, mais pas pour nous. Et c'était ça. Et c'était en même temps avec les sciences douces, enfin, dites douces, les sciences humaines, qui ne sont pas forcément très douces, mais enfin bon, humaines. Et aussi l'interrogation sur la façon dont le langage, revenons-y, où le langage nous emberlificote dans justement des rôles. On parlait de performance tout à l'heure, là, il faut regarder dans les yeux, etc. Le genre est performatif. Donc, ça aussi, ça m'a fascinée, parce que, étant écrivaine, je suis une créature de mots. Et c'était vraiment important de voir comment la science-fiction traitait ce thème-là.
De l'exclusion aussi, de l'idée de devenir l'autre, de ne pas rester pris dans une identité ou de voir son identité d'un point de vue extérieur.
Oui.
C'est ce qui peut être intéressant. Je pense en lisant beaucoup, on dirait que c'est assez transformatif, en fait. Oui.
Puis il y a des auteurs féminins, des écrivaines qui changent complètement les relations de pouvoir, même avec le thème de l'autre, où on a, par exemple, une galaxie vastement peuplée de tas de races, où les humains ne sont qu'un petit bout, totalement minoritaire, et ils sont obligés de jouer ce rôle minoritaire, ce qui, pour les gens qui sont habitués à la science-fiction, est un renversement complet. Et il faut qu'ils se conduisent en minoritaire, c'est-à-dire qu'ils sont en position de femme, pas minoritaire, mais d'inférieur, n'est-ce pas ? Qui doivent observer autour et comprendre justement les performances à effectuer pour rentrer dans la bonne case, ne pas irriter ceci, ne pas se tromper de cela. Les esclaves, comme on dit, connaissent les maîtres, alors que les maîtres ne connaissent pas les esclaves. Et pour beaucoup de lecteurs, je dis lecteurs et non pas lectrices de science-fiction, lire ces textes-là est extrêmement dérangeant. Parce qu'on a l'habitude de voir l'homme, le mâle, en position dominante. La science-fiction a très longtemps été ce type de littérature-là.
Un peu colonisateur, en fait,
totalement.
Juste refaire le...
Ouais, ouais, totalement, l'histoire. Totalement. Et c'est ça que la littérature de science-fiction féministe prend à contre-pied.
Puis aussi, pour continuer un peu avec ça, aussi même avec le thème de cette résidence-là, Slow Tech, moi je trouve que aussi la science-fiction, parfois, permet de réfléchir, par exemple, à l'emprise de la technologie d'un point de vue critique. Par exemple, Elisabeth, dans un de ses livres, elle parle du déclin, puis des choses qui sont retrouvées. Donc, ça nous permet aussi de voir un peu comment on traite, comment on utilise les matières, puis comment on traite l'environnement.
C'est ça. Qu'est-ce qui restera de nous? Est-ce qu'il restera des objets, des artefacts? Est-ce qu'ils seront encore compréhensibles? Qu'est-ce qui restera de notre langage, ce qui est plutôt votre recherche à vous? Je la trouve fascinante, cette recherche, parce que l'obsolescence du langage est quelque chose, pour une écrivaine, c'est horrible.
Ouais.
C'est complètement horrible.
Mais je pense pas que je vois nécessairement la fin du langage, mais c'est plus un thème récurrent dans la science-fiction qui m'intéresse, ou de l'idée du changement de la langue, ou de la dévolution, c'est un mot que vous aviez utilisé, de la corrosion un peu des mots. Il y a le passage du temps, mais il y a aussi, par exemple, dans des livres où, par exemple, dans aussi Octavia Butler, que j'ai pas ici d'ailleurs, mais qui... parle de comment, en fait, les humains se mélangent avec des extraterrestres, puis finissent par abandonner le langage humain, puis communiquer de d'autres façons, ou dans Margaret Atwood, où justement, il y a ce personnage qui est le dernier humain sur Terre, puis qui parle de tous les mots. Qui parle de tous les mots qui sont en train de disparaître parce qu'il est le dernier à pouvoir les parler, puis... pour moi, c'est un thème que je vois qui est assez récurrent.
Ben, je ne sais pas s'il est récurrent, mais il existe certainement dans la science-fiction. Mm-hmm. Le thème du changement du langage mm-hmm. est plus fréquent, mm-hmm. et aussi la réflexion sur le langage en tant qu'outil d'asservissement. Mm-hmm. Bon, alors ça, c'est toute la version 1984, la novlangue. Il y a aussi l'idée qu'il y a une espèce d'espace de liberté dans le langage. Sinon, on n'essaierait pas de l'utiliser pour nous asservir, n'est-ce pas ? En essayant de le mettre dans une boîte, la langue de bois et tout. Si vous vous rappelez Orange Mécanique, hochez de la tête de haut en bas. dans Orange Mécanique, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Lui, merci. Invente complètement une langue. Quand on le lit en anglais, c'est totalement tourneboulant de lire ça. Et c'est une langue qui existe dans les trous de la langue officielle, de la langue bien, de la langue que les gens bien parlent. Et c'est toute la question justement de toute la récupération de certains mots. On parlait, je crois, avec Maud, on parlait de poète, poétesse. Et il y a eu tout un mouvement chez les écrivaines, en tout cas, que je connais, où on parlait toujours de récupérer certains mots comme héros. On arrête de parler de héros, on parle d'héroïne. Oui, mais héroïne, c'est la petite chose pâle et blonde qui pose les questions idiotes au super mâle et qui est au haut de sa tour. Et... Récupérons héroïne. Alors, toute cette espèce de réappropriation du langage par les féministes, en passant par la fameuse féminisation du langage. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive dans la science-fiction, qui ne peut pas arriver en anglais, mais que j'ai essayé de faire, moi, en français.
Peut-être on fait une pause, puis après, on continue de parler de ça. On ne va pas vider notre deuxième sujet. En fait, la pièce que je vais montrer, c'est un enchaînement de petites pièces qui sont préenregistrées. Je vais avoir une partie un peu live aussi à la fin.
Something, me frappe au tympan.
avec toutes les portes d'armes ouvertes, du coloris mon âme en gros, charpie noir, mais du rouge à lèvres sur mes paupières, me suis arraché la peau. On n'a pas bien ben le droit d'être fâché ou déprimé ou folle, on va se le dire.
Thank you.
Là, c'est mon motto. Tu me l'as volé de la bouche. Là.
Là. Là.
Là. Receiving public recognition.
Boost.
Gosh, wow. Boy, boy.
Gosh,
wow. Boy, boy.
Gosh.
Gosh, wow, boy, boy.
Boy. Gosh, wow.
Gosh, wow, boy, 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 boy.
Gosh, wow, boy,
boy.
Wow.
Special encyclopedia.
It is liquid.
Avec un nouveau mot, le monde physique se présente à elle différemment.
Phénoménal.
She says, I have a universe in my pocket.
C'est quoi?
A pocket universe.
Like a snow globe.
A small parallel universe.
No, it isn't a space opera.
It isn't a part of your romance.
It is a probability world.
Probability world.
The pocket universe takes place
somewhere. Elsewhere. Everywhere.
Pièce puis nous regardait comme en ce moment même il serait comme qu'est-ce que c'est une secte. J'espère que c'était pas trop long. Il me reste juste une petite partie live, puis j'aimerais ça qu'on continue un petit peu la conversation. Ben c'est ça, ben peut-être que je peux juste montrer ce livre-là aussi pour commencer la conversation qui est plus sur le langage. C'est un livre qui contient pas tous les mots, mais c'est un dictionnaire de science-fiction où il y a des nouveaux mots qui ont été créés. Comme par exemple, les mots, il y a certains mots que j'utilisais dans la pièce qui est comme someone, où il y a des mots comme ça qui ont été pour la première fois utilisés en science-fiction ou qui sont comme vraiment liés à un auteur de science-fiction. Puis pour moi, c'est un peu pour ça que je fais ce travail-là sur la matérialité des mots, pour comme montrer qu'on peut travailler avec la structure des mots comme Maud le fait en poésie, ou que de créer des nouveaux mots, par exemple, à partir de mots qui existent déjà, pour créer des possibles, pour créer des situations, pour mettre un mot sur des choses qui n'existent pas encore, ou qui existent, mais qui n'ont pas de mots, en fait, encore, pour les désigner.
Oui. On est dans... on est dans Chomsky, là. c'est sûr que le langage nous sert à découper le réel. Si on ne veut pas trop le faire saigner, on peut le découper autrement. Et donc, c'est une des choses, effectivement, que la science-fiction essaie de faire. Parce qu'elle essaie d'imaginer la différence, des choses qui sont différentes. Et on ne peut pas imaginer quelque chose si on n'a pas les mots pour le dire, comme disait quelqu'un d'autre. Et les néologismes en science-fiction sont très importants, parce que ce sont non seulement la façon dont on peut faire percevoir une autre réalité au lecteur, mais c'est aussi la façon dont on peut interroger la réalité qu'on nous impose. Mm-hmm. Mais j'ai une question à vous poser.
Ouais.
Pourquoi en anglais?
Ben, moi, c'est parce que je lis en anglais, je lis dans les langues que je peux lire, en fait. Puis donc, il y a des... Vous voulez dire dans ma... Dans, puis moi, je voulais pas utiliser les traductions en français. Je voulais utiliser les mots d'origine en général quand c'était possible.
Ça, c'est que le problème, c'est que l'anglais est beaucoup plus... J'espère que personne ne va me lyncher à la sortie. Du point de vue de la science-fiction et du point de vue du langage en général, l'anglais est plus inventif que le français. Bon, au niveau scientifique, c'est pas pour rien que si la langue scientifique était le français jusqu'à peu près le premier quart du XXe siècle, ça a switché, ça a passé à l'anglais très très vite, et maintenant on est pas mal pogné avec. Et c'est un problème pour les traducteurs de science-fiction, mm-hmm. parce que justement le français est extrêmement rigide mm-hmm. au niveau de l'invention de mots. Il n'y a qu'à voir tout le hop-là autour de la féminisation du langage. Mm-hmm.
Bon. Peut-être on peut en venir aussi justement, si vous avez terminé votre point, à votre... roman où vous avez féminisé certains
oui.
mots.
Oui, parce
que...
Peut-être
expliquer un peu votre stratégie.
La stratégie. Non, c'est juste que quand on se projette dans le futur et qu'on essaie d'imaginer tout ce qui peut être différent dans le futur, le boulot de l'écrivaine de science-fiction consiste à essayer de faire un monde futur cohérent. Or, un monde futur cohérent sans... où il y a plein de choses qui ont changé dans l'environnement, dans la biologie des gens, dans leur psychologie, etc., dans leur technologie et tout ça. Et ne pas imaginer que le langage ait changé, c'est un manque d'imagination et c'est un manque d'honnêteté professionnelle, en quelque sorte. Donc, si j'imaginais une société dans 1000 ans, où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à cause d'un virus qui fait naître beaucoup plus de filles que de garçons, je me dis, bon, ça fait 1000 ans que ça dure, elles ne causent plus comme nous. Elles ne peuvent pas avoir manié les genres de la même façon que nous. Les genres du langage de la même façon que nous. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je féminise? Non pas féminisant de façon systématique, parce que ce serait artificiel, c'est pas comme ça que le langage fonctionne. Il fonctionne comme ça dans les utopies. On décide de fabriquer un monde nouveau en fabriquant un langage nouveau, mais c'est une tyrannie. Enfin, bon, c'est la novlangue. Mm-hmm. Et donc, les mots sont féminisés, les mots s'accordent au féminin. Vous avez 25 femmes et un gars. Ben, qu'est-ce que demande la logique? C'est que les accords se fassent au féminin, n'est-ce pas? Bon. D'ailleurs, je voudrais signaler que c'était le cas jusqu'au XVIe siècle. Enfin, jusqu'au XVIe siècle, en français, je parle en français, on était pas mal fluide au niveau des gens, en tout cas. Et donc j'ai fait ça. Et on parle d'enfante, ce qui n'est pas forcément une de mes inventions, je pense que j'ai dû le voir quelquefois. Une enfante, c'est un bébé féminin, quoi, bon. Et ce genre de choses, et au bout de... Quand j'ai eu fini d'écrire le bouquin, j'ai fait des fautes d'orthographe pendant à peu près 3 mois. Et le plus beau compliment qu'on a pu me faire à propos de ce bouquin-là, c'est de me dire, oh, après avoir lu votre bouquin, j'ai fait des fautes d'orthographe pendant 3 mois.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas ne pas s'empêcher de les faire pour que, comme, tu sais, créer un peu de perturbation, d'anarchie dans le langage pour que...
Mais c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire depuis, c'est que j'essaie de glisser sournoisement des féminins un peu partout. Et bon, maintenant, je dis toujours, bon, le féminin inclut le masculin. Quand j'utilise le féminin, je le fais de temps en temps, mais j'ai de moins en moins tendance à le faire. Bien zut. Bon. C'est quelque chose qui est relativement subversif, toutes ces histoires de... En français, parce qu'en anglais, le problème ne se pose pas du tout de la même façon. Mm-hmm. Et dans d'autres langues. Il ne faut pas s'imaginer que toutes les langues ont des genres. L'allemand a des genres.
Oui.
A des genres extrêmement bizarroïdes, puisque le soleil est féminin et la lune masculin. Alors là, vous avez la différence science-fictive dans toute sa splendeur. Mm-hmm. Des cultures où... Et qui sont à la porte d'à côté, où tout l'imaginaire extrêmement fort qui est lié à des images comme le soleil et la lune sont complètement inversés. What? Écoutez la résonance de ces mots-là en changeant leur genre. Écoutez leur résonance dans votre imaginaire et vous allez faire l'expérience de l'autre. C'est aussi simple que ça.
Ouais. Moi, je voulais juste continuer sur l'idée un peu en général de... des possibilités de modeler la langue. Puis en science-fiction, par exemple, il y a aussi, pour expliquer des mondes qui n'existent pas, des besoins, justement, de créer des mots un peu...
Une invention linguistique.
Oui, c'est ça, mais qui viennent quand même, tu sais, pas d'un langage complètement fictif, mais d'un mot fictif, en fait.
Oui, ben c'est ce que fait, par exemple, Le Guin dans... Dans la main gauche de la nuit, elle invente un mot, le Schiffgräther, je ne sais pas comment on le prononce, qui désigne quelque chose d'extrêmement important pour toute
et
la
complexe.
Culture, et complexe pour la culture de Geten, la planète froide où vit tout ce monde. Et le personnage principal, qui est un anthropologiste, en fait, qui vient là pour analyser et étudier la culture de cette planète, a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce que recouvre cette notion, parce qu'elle est extrêmement fluide selon la personne à qui on parle, en plus. Et c'est un outil, d'un point de vue purement technique, là je me place d'un point de vue technique, c'est extrêmement puissant comme outil littéraire, parce que ça oblige le lecteur ou la lectrice à faire le pas de plus, à essayer de se mettre dans la peau des natifs qui parlent la langue, soit dans la peau des pauvres humains qui arrivent là et qui essaient de comprendre. Oups.
Mathieu.
Personnellement, la linguistique me fascine, justement, je vous disais, je suis une créature de mots. Et il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui inventent des langages. Et c'est un problème parce qu'il faut inventer un langage d'une façon quand même cohérente. On ne peut pas simplement dire « Oui, alors le Quix de machin ne fonctionnait pas parce que le Zwick... » Non.
Pour moi aussi, c'est que c'est tellement loin des fois de nos langues que c'est difficile de se l'approprier comme... C'est un peu aussi plus colonisateur, en fait, de créer une nouvelle langue au lieu d'essayer de travailler.
Le problème, c'est qu'il faut connaître un petit peu la linguistique, déjà, pour inventer des langues. Chaque langue a ses spécificités, puisque nous, il y a des sons que nous n'utilisons pas, que d'autres langues utilisent, et on se forme très, très jeune. Les jeunes enfants se forment très jeunes à écarter certains sons et en adopter d'autres. Donc, si simplement en français, parce que le K ou le X... ne sont pas souvent utilisés, on va systématiquement utiliser des K et des X, c'est enfantin. Il faut aller plus loin que ça. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment inventer un langage. Il y a une linguiste qui s'appelait, puisqu'elle est malheureusement morte, Suzette Hayden Elgin,
qui était aussi une auteure de science-fiction.
Qui était aussi une écrivaine de science-fiction fort intéressante, qui a inventé, et une féministe galopante aussi, bon, de ma génération, qui a carrément inventé un langage féminin. Le Laadan, L-A-A-D-A-N, je vous suggère de googler la chose, vous trouverez tout un tas de trucs bien intéressants. Et c'était une expérience qui l'a jusqu'à un certain point dépassée. Elle l'utilisait un petit peu dans ses textes. Mm-hmm. Et il y a toute une portion de féministes qui ont embarqué dans le Lahada. Et c'était vraiment une langue très, très intéressante, justement.
Ouais, pour parler de choses, pour mettre des mots sur des, voilà, des réalités.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Sur des réalités qu'on ne pouvait pas nommer autrement. Mm-hmm. Mais de toute façon, toutes les langues ont des mots pour dire des choses et la langue d'à côté ne l'a pas. Mm-hmm. Le japonais en particulier, puisque c'est le dernier exemple qui me vient à l'esprit, le japonais a des trucs pour décrire, des mots pour décrire des concepts du genre le type de mélancolie que l'on ressent en regardant une plante verte qu'on a soignée longtemps pour et qui est en train de s'étioler. Ok. Et c'est 4 syllabes. Bon, le mot allemand Schadenfreude, la joie qu'on éprouve à la destruction systématique de quelque chose, la joie méchante qu'on éprouve à ce genre de choses. Et c'est fascinant de voir comme chaque langue découpe le réel à sa façon, en en laissant tomber des morceaux.
C'est vrai. Ouais. C'est comme une sélection sélective un peu.
Est-ce que c'est quelque chose de ce genre-là que vous essayez de faire dans le montage de son?
Ben, j'essaie de travailler, je pense. Vous voulez dire de laisser tomber des trucs?
Oui, parce que les mots existent dans un vide, par le creux.
Ouais. Ben, j'essaie de faire plein de trucs en même temps. Je pense que j'explore avec l'idée vraiment de la matérialité des mots. Donc, c'est un peu de placer les mots dans des contextes qui n'existent pas.
Ils n'ont plus de référent, là. Ils n'ont plus aucun référent. Ils n'ont plus de référent qu'eux-mêmes.
Ouais, ouais.
Et donc, ils n'ont plus de sens.
Ouais, c'est ça.
Pratiquement, c'est ça.
Ouais, ou les sortir en les répétant. En les répétant, ça devient plutôt... C'est la matérialité, c'est la texture du son, qui reste. C'est un peu pour ça aussi l'idée des speakers dans les touches de clavier, parce que les touches de clavier, normalement, c'est plus associé au signe. Donc là, c'est un peu l'idée de plutôt les associer à un son, puis de les enlever un peu de leur contenu sémantique, là, de leur simple signification.
Il me venait plein d'images de science-fiction en écoutant. J'écoute toujours les yeux fermés.
Vous ne dormiez pas?
Non, je ne dormais pas.
Je me demandais. Non. Mais vous avez reconnu votre voix? À un certain moment, il y avait un blanc qui était de vous.
Non. Okay. Il y avait un blanc qui était de vous. Un blanc? Ah, blanc. Blanc.
Blanc. Blanc. De notre blanc. Skype, blanc. En fait.
OK. J'ai été prise. Parce que par moments, je me disais, on dirait... Parce qu'enfin, c'est le langage disséqué par la technologie, là. Mm-hmm. Dépecé, je dirais même, par la technologie. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça l'approche slow tech?
Oh, c'est une bonne question. Moi, je réfléchis un peu aussi à l'idée du langage. Pour moi, la touche de clavier, c'est un peu comme l'unité de la langue, donc il y a un peu un côté reformaté, donc... Est-ce que c'est ça, slow tech? C'est une bonne question.
Parce que pour moi, slow tech, ça veut dire qu'il n'y a pas d'instrument qui intervient dans le bidule. Ben, slow tech, c'est la main qui écrit. Et même là, à la limite.
Que vous considérez la main comme une technologie ou la technique?
Ben non, mais le stylo, le style, la plume, tout ce qui est bon. Mm-hmm. À ce compte-là, le ciseau et le machin qui... Oh, ça devient intéressant. Est-ce qu'on veut vraiment... Moi qui écris des bouquins de 500 pages avec de la pierre... Non, pas vraiment. Mais je me disais, on dirait par moment il n'y a plus rien d'humain. Mm-hmm. Étrangement, il y a des voix, il y a des mots, donc sans référent, qui existent dans le vide, et on a l'impression qu'à travers tout ça, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui pêche ces mots quelque part dans les ondes parce qu'ils ont été expédiés par la technologie, et c'est tout ce qui reste, et qu'on essaie de récupérer, du moins on, en l'occurrence ces jeux, parce que les mots, pour moi, ont un sens. On essaie désespérément de trouver une façon de les remettre ensemble.
Mais c'est drôle que vous dites ça. C'est drôle que vous dites ça, parce que je travaille aussi avec des petits claviers personnalisés, puis je disais à Maud l'autre fois, puis à Gab, je pense qu'il était là aussi, je disais, ça serait fou quand même de laisser un clavier comme ça avant de mourir, en fait, d'avoir un clavier avec sa voix, puis « Je t'aime, maman », ou je sais pas, tu sais, des trucs comme ça. Bon, c'est une idée un peu folle.
Non, c'est ça. Non, moi, je trouve ça intéressant.
Mais je sais pas, en fait, c'est plein de trucs en même temps. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais je travaille avec tous les concepts qui m'ont intéressée en science-fiction, qui, pour moi, amènent à cette idée un peu plus de fluidité des mots ou de créativité avec les mots, de perturbation, c'est un peu l'idée.
Est-ce que vous avez conscience aussi du fait que vous avez deux niveaux d'obsolescence ou de destruction du langage là-dedans. Vous avez le degré zéro par le bas qui m'a fait penser par moments à certains commentaires sur Facebook où les mots sont tellement démolis par l'orthographe qu'il n'y a plus de sens.
Ouais.
Et par ailleurs, vers le haut, il y a le moment où le langage ne fonctionne, n'a plus besoin de fonctionner, qui est la transe. La transe par la répétition, la transe par
l'abstraction,
l'abstraction
en fait,
complète. Ou la répétition d'un même mot. Jusqu'à
pour
ce
le
que
sortir,
ce mot...
exactement, c'est un peu l'idée de travailler un peu les mots comme une sculpture, en fait, dans cette idée de fluidité, un peu.
Mais ce qu'il y a dans l'idée de transe, c'est pas...
C'est un peu plus magique ou...
Ben, pas tellement magique, mais c'est l'idée qu'on accède à un autre niveau de réalité où le langage n'est plus nécessaire. Alors ça, c'est autre chose.
C'est beau, hein? Je devrais noter ça. Mais peut-être que je fais la dernière petite partie. Je ne veux pas garder les gens trop longtemps. Maud veut dire quelque chose, par exemple.
Juste intervenir parce que ce que tu es en train de dire, ça colle tellement avec le texte que j'ai sur lequel, avec lequel on a travaillé. En fait, juste pour l'histoire courte, mon recueil, ça commence par... je situe très clairement ma position socio-économique par rapport au langage. Je viens d'un milieu ouvrier très pauvre, blablabla. Voici les mots que j'utilise, pourquoi je les utilise de telle façon. Ensuite, plus le recueil avance, il y a une répétition de ces mêmes mots-là où là, ils prennent soit un nouveau sens ou soit ils perdent complètement leur sens jusqu'à devenir juste des poches vides. Puis c'est comme si on atteint cet espace-là où on dépasse la représentation, on dépasse ce que les mots sont capables de faire. Puis on a besoin de mots qui sont plus puissants puis plus grands, donc des mots exposant un autre mot, pour arriver à cet espace-là dont vous êtes en train de parler, qui est la transe, ou là où il n'y a plus de langage, parce qu'il n'y en a pas des mots assez forts pour arriver.
Pour parler d'une expérience sensible, en fait, c'est assez fou qu'on puisse tous s'entendre pour dire... le soleil, c'est ce mot-là, ben, en tout cas dans certaines langues, ou en tout cas, c'est justement c'est, qu'on soit capable d'imposer des mots sur beaucoup de réalités, mais en même temps, à un moment donné, il y a un moment où le langage dépasse peut-être l'expérience
ceci
sensible.
Ceci n'est pas une pipe.
Voilà. Le mot égale le mot.
Le mot égale le mot. Le mot, c'est juste égaler le mot.
Justement, c'est une convention. Mais c'est une convention, ça.
Ouais.
Si je décide d'appeler ça un soleil, je peux, hein.
Ah oui,
mais je reste avec tonton, c'est Magritte. Ceci n'est pas une pipe. C'est la subversion totale, là, voilà. Ceci, le décalage complet. Et ça, c'est quelque chose. C'est un effet relativement science-fiction, ça.
Oui, c'est vrai. J'ai envie de faire la dernière partie parce que avant que Maud compte l'histoire de la fin de son poème, parce que c'est un peu la fin de son poème qui est dans la dernière partie que je vais faire live, qui va être un peu plus déconstruite. Hein? Ben ouais, qu'on compte tout ton poème au complet.
Encore de la bière!
Le réel plus plus.
le réel plus plus,
sans plus,
le réel plus plus,
plus 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 plus,
le réel plus plus,
et le total.
Quoi? J'essaie de parler, janvier, mercredi, vagin, gardienne, violence, bébé. Vendredi, mercredi, dinan, violence, violence, bébé. Janvier, mercredi, vagin, gardienne, violence, dinan, crédit, mercredi, crédit. Je voudrais que vous passiez 2 heures à les défiler dans votre esprit. Même chose pour Mayonnaise, je voudrais que vous en ayez les mains pleines, permettre l'apparition, que vous compreniez Mayonnaise, Mayonnaise dans mes poches. Mayonnaise veut dire mélo, Mayonnaise veut dire marjo, Mayonnaise veut dire. Mayonnaise veut dire tristesse, Mayonnaise veut dire dégoût, vouloir vivre, vouloir bébé. Dégoût égale détenir, retenir, dégoût, hygiène. Mayonnaise. Ouvrir la bouche. Je ne trouve que 10 826 mots qui ne brisent rien. 10 826 mots. Mot égale mot. Égale mot égale mot. Égale. J'essaie de parler.
Mais,